La voix des livres. L'émission mensuelle de la Bibliothèque sonore d'Agen et du Lot-et-Garonne.
La Voix des Livres, 7e édition, l'émission pour tous les amateurs de littérature et en particulier pour tous ceux qui sont empêchés de lire. Littérature, mais aussi revues et livres à destination des scolaires. Une émission qui donne de la voix aux livres. Aujourd'hui, trois rubriques. Une revue de la presse avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne.
Bonjour Bernard.
En effet, l'Association nationale des donneurs de voix met à la disposition de son public plus de 30 revues hebdomadaires, mensuelles ou bimensuelles. Après Le Coin des auteurs, les 12 et 13 mars a eu lieu le Salon du livre Paul à rencontre à Bonne Encontre. Nous y étions et nous y avons rencontré plusieurs auteurs, dont celui que j'ai devant moi, Jean-Michel Armand. Bonjour Jean-Michel Armand.
Bonjour Bernard.
Et enfin, les news. La Voix des Livres, c'est parti. Vous êtes sur Radio Bulle 93.6. Bonjour à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui, nous allons vous présenter une revue de la presse. En effet, l'Association des donneurs de voix nationale met à disposition du public des périodiques que nous enregistrons toutes les semaines, tous les mois, voire tous les deux mois, selon. On peut en citer quelques-uns. Dans les hebdomadaires, La Vie, Le Canard Enchaîné, Le Figaro Magazine, Le Nouvel Observateur, Le Point. Dans les mensuels, Connaissance des Arts, Géo, Historia, Le Monde Diplomatique, Le Monde des Religions, Santé Magazine, Science et Vie. À la Bibliothèque sonore d'Agen et du Lot-et-Garonne, nous enregistrons deux mensuels pour le compte du serveur national, Santé Magazine et Ça m'intéresse. Mais rentrons dans le vif du sujet. L'actualité du moment, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui mobilise tous les périodiques d'actualité. Voici Le Canard Enchaîné, son édito. Le titre, c'est « Un nouveau rapport alarmant du GIEC sur le réchauffement climatique. Pourtant, Poutine reste très glaçant. » Le poids du tank. Se mettre la terre entière à dos peut s'avérer lourd à porter, mais Poutine pense avoir les épaules pour l'endurer. Réputé mégalo, parano et solitaire, le côté « moi contre le reste du monde » n'est forcément pas pour lui déplaire. Il en fait même un argument pour justifier ses agissements. C'est lui qui déclare la guerre, mais ce sont les autres, c'est-à-dire l'Ukraine, l'Europe et tout l'Occident, qui sont, dit-il, hostiles et violents. Et il laisse dire ceux qui voient dans sa folle guerre et dans ce raisonnement des signes de trouble du comportement. Un fou fait beaucoup plus peur qu'un cynique. Surtout, quand à la moindre contrariété, il brandit la menace nucléaire. Et va même jusqu'à mettre ses forces en ce domaine en état spécial d'alerte. Le tout suscite bien sûr, chaque nouveau jour de guerre, des réactions supplémentaires chez les autres et une kyrielle d'effets secondaires. En d'autres termes, des conséquences imprévues et beaucoup plus lourdes pour Poutine que celles qu'il s'attendait à devoir supporter. D'autant que, dès le début de l'invasion, on le sait, ne s'est pas non plus passé comme il le prévoyait. Le Monde diplomatique, du 10 mars 2022. Les États-Unis avaient promis un raz-de-marée de sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un tsunami qui s'est abattu sur elle. Le 8 mars, un embargo américain sur le pétrole et le gaz russe s'est ajouté aux 2770 mesures restrictives adoptées à travers le monde. Si la Russie s'était préparée à certaines d'entre elles, elle a été surprise par d'autres, comme le gel de la moitié des réserves de change de la Banque centrale. Constatant que les sanctions n'ont pas toujours été efficaces dans l'histoire, les Occidentaux en déduisent qu'il faudrait à présent lancer une guerre économique et financière totale et provoquer l'effondrement de l'économie russe, selon les mots du ministre de l'économie français. Au risque d'acculer le Kremlin et d'entraîner une nouvelle escalade ? Comment punir ses adversaires? Le conflit ukrainien entre sanctions et guerre. En reconnaissant l'indépendance de deux régions séparatistes, le président Vladimir Poutine a porté atteinte à l'intégrité de l'Ukraine et accéléré la spirale des sanctions occidentales contre la Russie. Liste noire de dirigeants, embargos, restrictions financières. Bien que ces mesures soient rarement efficaces, Washington et l'Union européenne en font un usage croissant. Si Poutine envahit l'Ukraine, je veux qu'il sache qu'il aura du mal à acheter un soda dans un distributeur automatique dans les 5 minutes qui suivent, déclarait au journaliste l'élu démocrate Seth Moulton en visite à Kiev fin décembre 2021. Début janvier, les membres de son parti déposaient un projet de loi qui prévoyait des sanctions préventives, un concept inhabituel dans les relations internationales, puisqu'il revient à riposter à quelque chose d'hypothétique. Le reste de l'article recense les différents trains de mesures restrictives depuis le XIXe siècle et se pose la question de leur utilité. Un autre événement remue des souvenirs douloureux en France. Le 18 mars, c'était le 60e anniversaire des accords d'Évian, mettant un terme officiel à la guerre d'Algérie, débouchant sur l'indépendance. Historia y consacre un numéro spécial qu'il intitule « Algérie, le choc des mémoires ». Voici son édito. Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, la signature des accords d'Évian scella la fin des combats en Algérie, 7 ans et demi après le déclenchement de l'insurrection le 1er novembre 1954. Ces accords ont permis d'enclencher le processus aboutissant à l'indépendance de l'Algérie, reconnu par le général de Gaulle le 3 juillet et entériné par le gouvernement provisoire de la République algérienne le 5 juillet 1962. 132 ans jour pour jour après la reddition du dé d'Alger en 1830, l'Algérie devenait indépendante. 60 ans plus tard, les traces sont toujours vives entre l'Algérie et la France, à tel point que le président Emmanuel Macron a commandité en juillet 2020 un rapport public à l'historien Benjamin Stora pour faire des propositions afin d'apurer le contentieux franco-algérien et d'apaiser un tant soit peu ses mémoires blessées. Passé commun, depuis janvier 2021, les préconisations de ce rapport ont été mises en œuvre. Reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumendjel, de l'abandon des Harkis, du massacre du 17 octobre 1961, de la responsabilité étatique dans la répression sanglante de la manifestation de la rue d'Isly, apposition d'une plaque rappelant l'existence des camps d'internement, Atoll en particulier, ouverture des archives, organisation d'un colloque international sur les oppositions intellectuelles à la colonisation et à la guerre d'Algérie, etc. Jocelyne, je crois que tu as à nous parler d'un autre mensuel, c'est Science et Vie.
Oui, 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 Science et Vie. Ça va être un petit peu plus léger, ce que je vais raconter. Je vais vous parler de l'origine du vice, 7 péchés animaux. Si l'humanité se caractérise par ses forces et ses faiblesses, c'est le cas aussi pour certains animaux. Avides de plaisir, victimes de l'envie ou excessivement paresseux, il nous rappelle que nous appartenons au même monde. La colère. L'éléphant a bonne mémoire et se venge avec fureur. Dans les zoos, les histoires de bêtes colériques sont légion. Le meilleur exemple, ce sont les éléphants. Avec leur excellente mémoire, ils se souviennent longtemps des soigneurs qui se sont mal comportés avec eux, raconte l'éthologue Franz Deval de l'université américaine Emory. Dans la nature, leurs accès de fureur peuvent aller jusqu'à détruire des villages entiers, comme en 2016 à Ranchi, en Inde, où les habitants ont dû fuir. Au Kenya et en Tanzanie, certains jeunes guerriers Maasai les blessent, voire les tuent, explique Richard Byrne de l'université écossaise de Saint-Andrew. Son étude de 2007 a montré que les éléphants reconnaissaient les Maasai à la couleur de leurs vêtements et à leur odeur. Quand les habits avaient été portés, ils étaient terrifiés et s'enfuyaient à 1 ou 2 kilomètres. Mais lorsque les vêtements étaient neufs, ils les attaquaient comme s'ils évacuaient leur colère, sachant qu'ils ne couraient donc pas de danger. Les primates aussi sont connus pour exprimer leur hargne dès le plus jeune âge. Les bébés babouins font des colères qui ressemblent à celles des petits humains de 2-3 ans, quand leur mère refuse de les allaiter ou transporter. Ils hurlent et se roulent par terre de rage. S'amuse Élise Huchard, primatologue et chercheuse en écologie comportementale à l'Université de Montpellier. Moins attendrissants des singes langurs, s'en prendrait depuis des mois aux chiots du village de Lavol, en Inde. De véritables expéditions animées par un désir de vengeance, selon les habitants. Des canidés auraient tué un bébé singe. Et une étude américaine en laboratoire a révélé en 2016 que les singes capucins pouvaient se montrer rancuniers. Ils punissaient systématiquement celui qui recevait plus de nourriture qu'eux. Les origines de la colère sont bien plus anciennes que ce que l'on pensait, concluent les auteurs.
Mais comment, après tout cela, retrouver des nuits paisibles ? Eh bien, Santé Magazine d'avril a la réponse en y consacrant tout un dossier. Je vous en lis juste quelques conseils. Réviser son hygiène du sommeil. Ces grands principes ne sont pas toujours respectés et pourtant ils sont efficaces pour réguler son sommeil. Se coucher et se lever à des heures régulières en évitant un décalage supérieur à une heure le week-end. Régler la température de la chambre à 18 degrés maximum. Dormir dans le noir, sans la lumière du réveil ou d'un smartphone. Dîner léger en évitant l'alcool. Une heure avant d'aller au lit, passer en mode détente, pas d'écran, pas de réseaux sociaux. Éviter de passer trop de temps au lit sans dormir. Conserver une activité physique régulière, un corps en forme plonge dans le sommeil sans difficulté. Je ne suis pas certain que ces conseils suffisent aux Ukrainiens, mais il est certain que cela pourrait servir à certains d'entre nous. Un peu de musique pour nous changer les idées. Voici Monde Nouveau par Feu Chatterton. Feu Chatterton qui sera au Florida le 11 mai.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. S'attraper dans les bras, ça vaut le poids, se prendre.
Des auteurs. Je ne vais pas faire l'affront de présenter Jean-Michel Armand ici présent aux auditeurs de Radio Bulle qui le connaissent bien pour sa chronique « Les archives du crime » sur cette antenne. La Bibliothèque Sonore l'a rencontré lors du salon Paul à Rencontre les 12 et 13 mars. Il y présentait son dernier livre « Les archives du crime, 47 affaires criminelles en Lot-et-Garonne ». Jean-Michel Armand, vous êtes fétichiste du nombre 47 ?
Pas vraiment. C'est un petit clin d'œil, effectivement, à notre département et une convenance, si on peut dire les choses ainsi, avec mon éditrice.
D'accord. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. D'où est-ce que vous parlez ? Je veux dire, qui êtes-vous pour être légitime à nous parler de ces affaires ? Déclinez-nous votre identité, s'il vous plaît.
Eh ben, c'est très simple. J'ai passé l'essentiel de ma vie en prison. Du bon côté, j'avais la chance d'en sortir le soir, pour dire les choses avec un peu plus de sérieux, j'ai passé 44 ans de ma vie à l'administration pénitentiaire, donc à fréquenter Pâle Voyou, Meunier Frottin et Gros Truand, et lors de la retraite venant, le goût m'est resté certainement, puisque je suis allé plonger dans les dossiers de cour d'assises de notre département, aux archives départementales, pour y trouver la matière à ce qui est devenu, dans un premier temps, les chroniques que je publie dans le journal Sud-Ouest, qui, cumulées et réécrites, ont donné cet ouvrage.
Relater toutes ces affaires vous a évidemment demandé pas mal de recherches, vous en parlez un petit peu. Et comment vous avez fait pour fouiner dans toutes ces affaires ?
Alors j'ai fait le choix de ce qui, dans le registre des faits divers, attire le plus le chaland et le lecteur, c'est-à-dire les crimes de sang. Un crime, c'est d'abord une qualification du code pénal, mais ce n'est pas forcément un crime de sang, ce n'est pas forcément un passage à l'acte où il y a mort, où il y a mort d'homme, au sens générique du terme, mesdames. Donc, effectivement, j'ai fait ce choix de crime où, effectivement, le sang avait coulé et où, malheureusement, une ou plusieurs personnes y ont laissé leur vie. Alors, le critère ne suffit pas parce que, bon, ça n'a échappé à personne. Nous ne sommes... Alors, on est à la radio, ça ne va pas se voir, mais je le fais quand même. On n'a pas de caméra, j'y mets les guillemets. Nous ne sommes que dans le Lot-et-Garonne. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Nantes. Et on a une criminalité que je qualifierais tranquillement de quand même assez agricole. C'est-à-dire, souvent, l'origine de ces crimes de sang renvoie à des héritages mal digérés, des partages de terres mal faits, des histoires de coucherie entre voisins, entre tirs familiaux. Mais encore, tout ça ne suffit pas. Il faut effectivement que je trouve matière dans le dossier à en faire un récit. C'est-à-dire, prenons un exemple tout bête, un monsieur va tuer sa femme et l'amant de sa femme, et puis piteusement va aller chez les gendarmes, tendre les poignets pour qu'on lui passe les menottes et se constituer prisonnier. Voilà, ça ne fait pas une histoire. Par contre, quand vous lisez intégralement, comme je l'ai fait, parce que j'avais le temps, un dossier de cour d'assises, dans les interstices, c'est-à-dire en lisant tous les procès-verbaux, soit ceux des enquêteurs ou ceux du juge d'instruction, vous trouvez matière à effectivement trouver les éléments qui ont justifié, en tout cas qui expliquent le passage à l'acte. Et ça, ça effectivement, ça fait récit. Bon, après, peut-être l'écriture qui est la mienne, peut-être confère une plus-value dans le récit tel qu'on peut les lire, dans les récits tels qu'on peut les lire dans cet ouvrage.
Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous raconter l'affaire la plus extravagante que vous avez explorée ?
La plus extravagante, celle en tout cas qui a eu le plus de retentissement, qui a dépassé largement les limites de la Genêt et du Lot-et-Garonne, et même de l'Hexagone, c'est l'affaire de la Fée, c'est 1932, à Moirax, c'est-à-dire c'est un sextuple assassinat. Un monsieur d'une grande banalité, comme le montre les multiples photos qu'on peut trouver ça et là, avec son béret, sa petite moustache très française des années 30, qui ne va pas vraiment expliquer son geste, qui va donc massacrer, outre son épouse, ses deux enfants, dont un bébé de 4 mois, il va massacrer sa mère, sa grand-mère et un oncle grand-maternel, dans des conditions absolument horribles. C'est pas tellement le fait en lui-même qui est intéressant, c'est le prolongement, et notamment la question qu'on commence résolument à trouver dans les dossiers de cour d'assises, c'est-à-dire la question de la responsabilité. Même si le code pénal de 1810, le code Napoléon, stipule dans son fameux ex-article 64, il n'y a ni crime ni délit lorsque, effectivement, la personne était en état de démence ou s'il était poussé par une force qu'il n'a pu contrôler, etc. etc. Donc le cas de figure était prévu déjà par les médecins aliénistes qui ont conseillé effectivement les rédacteurs du code pénal napoléonien. Mais dans l'enceinte des cours d'assises, c'est encore balbutiant. Et même dans ces années 30, dans ces années 30, ça commence à être systématique. Et dans le cadre de la Fée, effectivement, dans la mesure où il ne va pas donner d'explication outre que celle qu'il a simplement fournie aux enquêteurs et aux juges d'instruction, et après il va se taire définitivement, c'est-à-dire qu'effectivement, sa famille le harcelait, qu'il n'en faisait jamais assez. Alors il n'en faisait pas beaucoup, il l'explique en disant « Moi j'ai fait une école de mécanique supérieure à Tarbes, j'étais pas fait pour le travail de la terre ». On m'y a contraint, la mère de mon père, ma mère m'y a contraint, ma famille m'y a contraint. Et donc, je n'étais pas fait pour ça. Et donc, j'ai vu une espèce de frustration permanente, hein, qui plus est, dans une ambiance familiale délétère. J'étais fou, va-t-il expliquer. Je n'étais plus moi-même, mais il y aurait pu y avoir le double de personnes que je les aurais toutes massacrées. Donc, effectivement, on dirait « Oh, le beau cas !» comme dans Achille Talon. Évidemment, les médecins aliénistes, on les appelle encore comme ça à l'époque, les médecins psychiatres vont se pencher sur lui, à la maison d'arrêt d'Agen, et il va redire substantiellement la même chose, avec beaucoup plus d'économie de mots, puisqu'il va pratiquement ne plus rien dire, et se retrancher à lui-même, se retrancher à son destin, qui s'annonce quand même assez noir, et donc il va être envoyé devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. Et il va y avoir une petite bataille d'experts parce qu'on a trouvé, alors effectivement, il faut revenir en deux mots en arrière, lorsqu'on découvre effectivement sa famille massacrée, lui n'est pas là. Alors on s'en inquiète, où est-il ? Il voit ça qui dit, ah oui, il est parti à Clairac chez des amis, les Barthes boulangers à Clairac, dont la camionnette est en panne. Il est parti la réparer puisqu'il a des compétences en mécanique auto. Et donc on appelle les gendarmes de Clairac pour qu'ils le ramènent, mais il est déjà reparti en vélo. Et alors il va arriver dans l'après-midi aux alentours de 15h30. Et évidemment tout le monde l'attend, il y a le maire Jean-Baptiste Lannelong qui est là, il y a déjà le procureur Borès d'Agen, les gendarmes de La Plume qui sont déjà sur place depuis un petit moment. Et donc tout le monde est là, fébrile, comment lui annoncer ça, comment on s'attend à ce qu'il s'écroule, à ce qu'il hurle sa douleur. Et quand on le confronte, puisqu'il faut bien le faire, aux six corps martyrisés, il va rester marmoréen, il ne va avoir aucune réaction. Ce qui va effectivement beaucoup étonner les enquêteurs, à tel point qu'effectivement ils vont se retirer un court moment pour un conciliabule, et un maréchal des logis de la gendarmerie qui est resté auprès de la Fée, qu'il connaît bien, la campagne on connaît toujours les gendarmes, de la Fée va dire « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et le gendarme lui répond « mais ils attendent que tu avoues ». C'est dire si effectivement tout de suite, on est assez persuadé que de la fée, si ce n'est pas lui qui a commis l'acte, en tout cas, il doit y être sûrement pour quelque chose. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, les protagonistes de l'affaire sont persuadés que c'est lui le coupable. Oui. Il va avouer effectivement assez rapidement, le soir même, non pas devant les commissaires Garingue et les policiers de la 7e brigade mobile de Bordeaux, l'ancêtre de la police judiciaire, qui vont se déplacer rapidement jusqu'à Moirax, mais au petit matin, face au maire et à ce même maréchal des logis-chef, de la fée va reconnaître qu'effectivement, il est bien l'auteur de ce sextuple assassinat. Il sera logiquement condamné à la peine de mort, malgré une contre-déposition du professeur Did, qui est une sommité, et le médecin-chef de l'hôpital de Bragueville à Toulouse, l'hôpital psychiatrique, l'asile, on dit encore à l'époque, qui va dire qu'effectivement, lui non plus n'a pas trouvé de pathologie mentale telle que la nosographie psychiatrique de l'époque les répertorie, mais va quand même dire son trouble face à une totale absence d'émotion, une absence totale d'émotivité face à une famille massacrée dans les plus horribles circonstances, hein, à la hache, au couteau, au fusil, tout y est passé. C'est un véritable massacre. Et donc, il ne va pas pouvoir étayer sa démonstration. Il va du reste s'en excuser auprès des membres de la cour d'assises, les magistrats et les jurés. Mais pour lui, c'est clair, ça cache un grand trouble qu'il ne s'est pas véritablement qualifié. Alors évidemment, les jurés vont pas être convaincus. Puis dans ces années 30, face à de tels agissements, effectivement, la peine de mort est guère évitable. Encore que sur le sujet... Alors évidemment, sur des crimes bien moins horribles, on s'aperçoit que les cours d'assises, et notamment celle du Lot-et-Garonne, est relativement compatissante aux criminels, puisque sur les à peu près 400 dossiers que j'ai pu dépouiller, sur cette période notamment des années 1920-1930, pour des assassinats, donc des crimes avec préméditation, je n'ai pas vu de peine supérieure à 7 années de réclusion criminelle. Des peines, un étage de peine généralement autour de 2 et 3 ans. Les mêmes crimes aujourd'hui vaudraient à minima, 12 à 15 ans de réclusion criminelle. Mmh. Oui, donc dire qu'aujourd'hui les tribunaux et les cours d'assises sont laxistes, comme on l'entend ça et là, l'étude de ces dossiers nous démontre que c'est l'inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement à cette époque, j'en terminerai par là, le jury est souverain. Les magistrats professionnels, le président et ses deux assesseurs ne participent pas aux délibérations.
D'accord.
Et donc on va avoir effectivement des avocats habiles, notamment durant le temps du procès, retourner complètement des jurys en faisant appel à leur émotion, à leur empathie. Et donc, contre le cours des choses, on va avoir des condamnations très basses, voire des acquittements. Et c'est pour remédier à ça que le gouvernement de Vichy, en 1941, donc l'État français, va réformer la cour d'assises et va donc déjà baisser de 9 à 12 jurés, de 12 à 9 jurés, pardon, et faire que les magistrats professionnels seront participants, avec voix délibérative, mais pas prépondérante, aux délibérations du jury.
Oui, oui. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que nous avons tous, à des degrés divers, un penchant pour, je dirais, nous délecter de ce genre d'affaires ? Je pense à certains journaux qui s'en repaissent, des affaires ont traversé des décennies, comme l'affaire Grégory, par exemple, ou des cas d'école qui ont donné lieu à des films ou des livres. Je pense notamment à moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, ou bien le film Bruno Rédal, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il va sortir bientôt.
Il sort c'est un film vraiment dans Lot-et-Garonne, puisqu'il était tourné en Lot-et-Garonne, absolument.
C'est un film exceptionnel que je vous conseille d'aller voir quand il sortira. Et qu'est-ce que vous en pensez de cet engouement, je dirais, pour le phénomène partie de la population ?
Je dirais même pas d'une partie de la population. Je pense que tout le monde a un degré ou un autre.
Vrai, non, non.
Et t'attirer à...
Non, non, je suis désolée, mais là, je suis obligée d'intervenir. Non, non.
Alors, une grande partie de la population, sauf madame, reste attirée. Et ce n'est pas par ce genre d'événement. C'est du reste pas nouveau, puisqu'à partir du moment où il y a eu des gazettes imprimées, c'est-à-dire à peu près à partir de la fin du 16e, enfin, à mi-temps du 16e, vendues par des colporteurs qui battaient des campagnes et qui, effectivement, venaient raconter... principalement, et on achetait effectivement ces feuilles, ces gazettes pour ça, raconter des histoires horribles. Et donc, après, je laisse aux psychanalystes, aux psychiatres et autres psychologues le soin de dérouler, de dévider effectivement les fils complexes de nos esprits. Pour moi, il y a essentiellement un phénomène de... Enfin, pour partir essentiellement de projection et d'identification, c'est-à-dire on se dit que possiblement on pourrait être aussi à la place de ces gens-là. Après tout, on peut perdre notre sang-froid et se trouver dans des situations où effectivement on se déborde et où effectivement le surmoi lâche et le côté animal de nos personnes surgit brutalement. Et puis parce que, à contrario, voir l'exceptionnel, voir la souffrance d'autrui, ça permet de penser qu'effectivement on en est exempt. et ça doit psychiquement satisfaire, je pense, les personnes. Moi, je n'en cache pas, j'ai toujours été, depuis que je suis adolescent, amateur de faits divers, pas forcément criminel, mais effectivement, ceux-là, on m'a prédilection. Oui. C'est vrai que, sans m'en repas, mais c'est pas tant l'acte lui-même, je veux dire. C'est ce que ça éclaire de nos personnalités humaines. Alors, c'est vrai que professionnellement, pour avoir vu des gens qui, pour certains, étaient à la lisière de notre humanité, ça donne pas effectivement, ça me donne pas une idée très très enthousiasmante du genre humain.
En tout cas, merci Jean-Michel Armand d'être venu nous parler de votre livre. Donc je rappelle le titre, Les archives du crime, 47 affaires criminelles en Lot-et-Garonne. Merci.
Merci à vous.
Un peu de musique pour se détendre, Fever par Peggy Lee.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Voici pour terminer les news. Vous êtes toujours sur Radio Bulle 93.6, La Voix des Livres. Le 3 avril prochain ont lieu deux événements autour de la lecture où la Bibliothèque Sonore tâchera d'être présente. La foire aux livres et aux vinyles de la Sauvetat Saver de 9h à 17h non-stop avec possibilité de restauration le midi à la salle des fêtes. Et le forum littéraire Les Marque-pages de Boé de 14h à 19h à la salle François Mitterrand. Vous aurez l'occasion de faire un tour dans les deux endroits si vous voulez. Mardi 15 mars, la Bibliothèque Sonore a été reçue à la mairie avec l'Université du Temps Libre, l'Escalier qui monte et le CEDP pour prendre connaissance de l'avancement du projet de relogement de ces quatre associations. Pour ce qui nous concerne, il est envisagé d'occuper des locaux rue Jean Terle, derrière les montreurs d'images, en face de l'UTL, pour leur part dans les anciens locaux du COS. Cette installation demandera une période de travaux d'aménagement. Notre déménagement n'interviendra pas avant 2023. N'hésitez pas à nous contacter. Notre permanence est le mardi et le vendredi de 14h à 17h30, 8 rue Paul Ponce ou au téléphone 05 53 47 74 47 ou encore à l'adresse 47a@advbs.fr. La Voix des Livres, c'est terminé. Merci à Ophélie, à la technique Radio Bulle 93.6. Cette émission est à la réécoute sur radiobulle.net, rubrique podcast. Merci à Jocelyne qui a préparé cette émission avec moi comme d'habitude. Merci à Jean-Michel Armand de s'être joint à nous. Prochaine émission, le mardi 26 avril à 18h. Signé Bernard, à bientôt, ciao ciao.
La Voix des Livres. L'émission mensuelle de la Bibliothèque Sonore d'Agen et du Lot-et-Garonne.